Les personnes atteintes d'une déficience intellectuelle ou de troubles comme celui du spectre de l'autisme doivent faire partie des groupes prioritaires à vacciner. C'est ce qu'a plaidé le titulaire de la chaire Autodétermination et handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Martin Caouette, à l'occasion des consultations publiques sur la santé mentale des Québécois. C'est ce qu'on pouvait lire notamment sur le site de Radio-Canada le 19 janvier 2021, il va sans dire. Et je suis bien heureuse de parler avec M. Caouette. Bonjour, Martin Caouette.
Oui, bonjour.
Vous êtes également chercheur à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme.
Exactement, c'est bien ça.
Alors, M. Caouette, pourquoi vous estimez que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, devraient être vaccinées rapidement?
Bien, en fait, on commence à avoir de plus en plus de données qui sont disponibles sur le plan scientifique qui nous permettent de croire que les personnes, notamment celles qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, sont plus à risque de complications lorsqu'elles contractent le COVID-19. Donc, notamment, si on regarde du côté des personnes trisomiques, en fait, de plus en plus d'études qui nous permettent de croire que lorsqu'elles sont atteintes de la COVID, bien, elles sont plus fréquemment hospitalisées et ça se termine plus fréquemment également par un décès. Donc, okay. Évidemment, la COVID-19 étant quelque chose qui est encore nouveau, qu'on est encore en train d'étudier, il y a encore beaucoup de travaux qui sont nécessaires pour nous permettre de savoir dans quelle mesure la déficience intellectuelle ou le trouble du spectre de l'autisme est une condition qui vient accroître le risque de complications, mais du moins un simple principe de précaution, en fait, nous permet de croire là, que ce serait vraiment avantageux pour les personnes de prioriser leur vaccination.
Et vous avez dit aussi que le vaccin n'a pas qu'un impact physique, il a aussi un impact sur la santé mentale de la personne elle-même et de ses proches, tout simplement parce qu'il vient rassurer, parce qu'il y a une détresse grandissante là, au sein de ces groupes-là, entre
Bien,
autres.
Absolument, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est dans le contexte des consultations sur la santé mentale là, que j'ai abordé cette thématique-là, c'est-à-dire que pour plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, le quotidien a été quand même chamboulé de façon importante, ce qui a notamment complètement transformé leurs habitudes de vie, le rythme de leur quotidien et la capacité finalement à comprendre les causes, les découlants de cette nouvelle situation-là peut parfois être plus complexe. Évidemment aussi, on cherche à protéger les personnes, donc bon, dans certains cas, on peut avoir tendance à leur imposer des mesures, des restrictions qui sont encore plus importantes que celle de la population en général. Donc, simplement de façon tangible, avoir accès au vaccin, c'est aussi une façon de rassurer les personnes elles-mêmes, mais également leurs proches, parce que ça fait partie aussi des éléments qu'on documente de plus en plus, où on se rend compte que le fait d'avoir une déficience intellectuelle, par exemple, pour un trouble du spectre de l'autisme, peut rendre plus difficile le respect des gestes barrières qui nous permettent de nous protéger de la maladie du virus. Donc, c'est pour ça aussi que ça a cet impact-là sur le bien-être des personnes là, qui est indéniable, là, qui, en soi, justifie qu'elle soit priorisée pour la vaccination.
Quand vous parlez de gestes barrières, vous parlez des consignes sanitaires comme se laver les mains, respecter la distanciation physique?
Oui, complètement, en fait, parce qu'il y a un phénomène qu'on voit, certaines personnes qui peuvent avoir de la difficulté à exactement respecter ces différentes consignes-là. On voit aussi un effet, dans certains cas, notamment chez les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, d'un espèce de surinvestissement de certaines mesures sanitaires. Par exemple, se laver les mains de façon compulsive ou encore développer de l'anxiété à se retrouver en société, à se retrouver finalement à l'extérieur du domicile par crainte d'être contaminé par le virus. Il y a une compréhension des fois qui peut être plus limitée de la façon dont le virus se transmet effectivement. Donc, le vaccin, c'est une façon tangible, concrète, pour justement venir rassurer les personnes et leur permettre justement de constater qu'elles ont du pouvoir sur la façon de se protéger du virus.
Et on n'a pas parlé du masque non plus. Il y a plein de monde qui a encore de la difficulté à bien le porter. Alors que j'imagine que chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, c'est pas nécessairement non plus évident.
Effectivement, d'ailleurs, ça fait partie des conditions qui peuvent justifier le fait de ne pas porter le masque, notamment en raison de, sur le plan sensoriel, notamment pour des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, le porter au visage, ça peut être vraiment très, très difficile dans certains cas.
Et Martin Caouette, le fait qu'il soit privé d'école en personne, comme on dit en présentiel, ou de loisirs adaptés, est-ce que ça peut nuire à leurs acquis en termes de développement?
Oui, absolument. En fait, il y a vraiment toute une espèce de phénomène là où ne plus avoir l'opportunité finalement de mettre en application certaines compétences, certaines capacités, avoir diminué aussi les occasions d'interaction sociale avec d'autres personnes. En fait, tous ces contextes-là, l'isolement que ça peut générer, ça nous permet effectivement de constater qu'il y a des pertes d'acquis chez certaines personnes. Donc, c'est d'autant plus important, le plus rapidement possible, de permettre aux personnes d'avoir accès au milieu de vie habituel, d'être stimulées, de développer, de continuer de maintenir, mais de continuer à se développer aussi sur le plan social. Donc, la détresse, elle est là aussi chez les proches, là, des personnes qui doivent composer avec ces situations-là.
Les familles qui assistent souvent à leur régression, à la régression de leurs enfants.
Oui, ben absolument. Puis c'est beaucoup ce qu'on voit en ce moment sur le plan clinique, là, puis ça se documente de plus en plus, mais des problématiques comportementales qui vont émerger chez certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur quotidien a été transformé. Ouais. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, je pense que c'est important aussi de penser la vaccination pour les personnes en situation de handicap indépendamment de leur milieu de vie. Donc, c'est sûr que dans des contextes, par exemple, de ressources intermédiaires, milieu d'hébergement, on a cette possibilité-là, un peu comme c'est le cas pour les personnes âgées, de prioriser la vaccination, mais indépendamment de leur lieu d'habitation, je pense que c'est important, notamment pour les personnes qui vivent justement avec leur famille à domicile.
Et tantôt, vous parliez des personnes qui ont une trisomie 21. Il y a des risques d'hospitalisation, de décès aussi qui sont associés à la COVID-19 et en raison de leur anatomie distincte et aussi d'une fragilité de leur système immunitaire. Mais je me demandais si ailleurs, au pays, au Canada ou dans le monde, ce groupe-là spécifiquement est priorisé.
Oui, il y a des pays, il y a plusieurs pays qui ont fait le choix de prioriser. Notamment, il y a du côté de la France là, où on priorise de façon générale les personnes en situation de handicap, mais les personnes trisomiques sont priorisées. Même chose du côté de l'Angleterre, certains États américains aussi ont choisi de le faire. Étant donné qu'elles sont identifiées comme personnes vulnérables, et c'est le cas ici au Québec, depuis le début de la pandémie, on les identifie comme personnes vulnérables et donc, il y a une logique aussi à les prioriser quand vient le temps de la vaccination. Donc, ailleurs dans le monde, ça se fait dans différents endroits, comme je le disais tout à l'heure, par précaution, tout simplement, parce que la capacité à se protéger du virus, là, autant sur le plan physique, là, étant donné certaines conditions physiques, mais également la mise en place des comportements pour se protéger, ben, peut être plus limitée. Donc, ça s'impose.
Mieux vaut prévenir que guérir. Et Martin Caouette, quel devrait être leur niveau de priorité?
Bien, en fait, évidemment, là, je pense que les épidémiologistes sont les mieux placés pour prendre position là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait les considérer au même statut que les personnes âgées, c'est-à-dire qu'à partir des gens de 70 ans, 60 ans, il y a des strates, les premiers niveaux de priorité, finalement, sont accordés aux personnes âgées. Moi, je pense qu'on pourrait tout à fait considérer que les adultes qui ont le statut de personne handicapée au Québec devraient se retrouver au même niveau de priorité que les personnes âgées. Concrètement, en fait, c'est des populations qui sont plus vulnérables, qui sont plus à risque également d'avoir des conditions sous-jacentes ou des comorbidités qui peuvent accroître le risque de complications. Donc, je pense qu'en situant les personnes à ce niveau-là, ben, ce serait tout à fait adéquat là, de les considérer sur le même pied d'égalité que les personnes âgées.
Est-ce que vous avez eu l'impression que le ministre délégué à la Santé, là, M. Lionel Carman, était réceptif à vos arguments lors des consultations publiques?
Oui, parce qu'en fait, oui, il était réceptif. Il nous a confirmé également que ça faisait partie des discussions et que la question qui se pose, c'est vraiment de voir le niveau de priorité. Et là, là-dessus, il peut y avoir, bien sûr, des discussions. Je pense que l'ouverture était là. Ça va faire bientôt un mois, par exemple. Donc, je pense que le moment est venu là, de prendre position clairement parce qu'il y a plusieurs familles là, qui attendent des réponses. Oui. Évidemment, on a moins de vaccins disponibles en ce moment. Donc, l'enjeu est un peu moins pressant. Mais espérons que le nombre de vaccins disponibles va augmenter prochainement. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, il faut qu'il y ait clairement une position qui soit prise là, rapidement pour que les familles sachent à quoi s'en tenir.
Donc, la vaccination faisait partie des discussions lors de ces consultations-là qui se sont déroulées en janvier. Ça fait quand même pas si longtemps, comme vous le disiez tantôt. Mais oui. Quand même, pour vous, vous avez hâte d'avoir des réponses. Mais ces consultations ont pour but d'élaborer un plan d'action en santé mentale qui entrera en vigueur à l'automne 2021. Bon, on souhaite que vous ayez des réponses plus rapidement qu'à l'automne 2021 quand même.
Oui, absolument. Je pense que c'est indispensable. C'est maintenant que ça se passe. Là, puis il faut clairement que toutes les personnes en situation de handicap qui le désirent puissent être vaccinées là, rapidement. Là, je pense que c'est vraiment une question d'humanité, je dirais même, là, dans le contexte, là, de façon à permettre à chacun de pouvoir retrouver une vie la plus normale possible rapidement.
Si vous n'avez pas de réponse dans les prochaines semaines, est-ce que vous pensez à agir autrement, je sais pas?
Bien, c'est sûr qu'actuellement sont mobilisés de nombreux organismes communautaires, par exemple, qui réunissent les parents, les proches. Je pense que ces organismes-là vont continuer à faire des représentations là, sur cette question-là. C'est indispensable. Mais comme c'est le cas pour plusieurs mesures mises en place dans le contexte de la COVID. Je pense qu'il faut toujours rappeler les particularités des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Je pense qu'il faut pas lâcher. Donc, il faut continuer de ramener ça dans le débat public. Et puis, bien évidemment, merci de me permettre de le faire aussi ce matin. Je pense que c'est indispensable, ça doit se poursuivre.
Martin Caouette, titulaire de la chaire Autodétermination et handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que chercheur à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Un grand merci pour cette entrevue, puis bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.